Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je suis là pour les 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur les ondes de Canal M. J'en parlais vendredi dernier avec le docteur David Lucier, lui qui est gériatre, je vous le rappelle, de l'explosion des recherches en matière de la maladie d'Alzheimer, sur la maladie d'Alzheimer. Et bien sûr, tout ça lié à ce souhait, ce rêve que l'on trouve un jour un traitement curatif pour aider les personnes atteintes, les familles aussi, hein, parce que c'est extrêmement éprouvant d'accompagner une personne atteinte de cette maladie. Mais d'ailleurs, le Centre de recherche du CHUM publiait récemment une recherche plutôt prometteuse sur cette maladie qui pourrait être un chaînon très important dans la compréhension de la maladie. En deuxième partie d'émission, Carl Fernandez, lui chercheur au Centre de recherche du CHUM et également professeur à l'Université de Montréal, sera là pour nous en parler davantage. Aussi, si vous avez un trouble de la vue ou encore si ça touche un membre de votre famille, vous savez probablement que la santé visuelle au Québec, ça coûte cher. Pour une simple myopie, par exemple, qui requiert un examen complet de la vue, des lunettes, et aussi des verres de contact, là, souvent, une provision d'un an, à peu près, ça peut coûter jusqu'à 1 286 $. Ce sont des chiffres qui viennent du magazine Protégez-vous 2014, assez récent. On peut aussi s'imaginer que si le problème est un petit peu plus complexe, ça va coûter cher si plusieurs membres de la famille sont touchés, hein, des fois 2-3 enfants de myopie, ben, la facture augmente également. Évidemment, les services d'un optométriste, d'un opticien, c'est indispensable, pour avoir une ordonnance, entre autres choses, mais pour une bonne santé visuelle, est-ce que ça peut être possible de rendre ces services-là plus accessibles? Pour une population notamment moins en moyen, j'en parle tout de suite avec Philippe Rochette, lui opticien d'ordonnance nomade dans le communautaire. Philippe Rochette, bonjour.
Bonjour.
On vous appelle aussi le bonhomme à lunettes.
On m'appelle aussi le bonhomme à lunettes.
Mais je vais vous appeler Philippe, ça vous
va,
convient?
Ça va.
Philippe, vous avez, bon, je le disais, vous êtes un opticien d'ordonnance nomade. On va clarifier tout à l'heure qu'est-ce que c'est ça. Mais d'abord, je m'intéresse au parcours. Au tout début, vous avez fait comme tous les autres. Là, vous avez travaillé dans une boutique, une lunetterie, tout ce qui est de plus normal. Mais c'est de là qu'est venu ce fameux constat que ce n'était pas accessible à tous, les lunettes et tous les soins de la vue.
Effectivement. Lorsqu'on travaille dans les commerces conventionnels, on s'aperçoit assez rapidement que le prix demandé est un obstacle pour une bonne frange de la population. Il y avait justement des chiffres qui sortaient ce matin sur la quantité de ménages qui ont de la difficulté à se nourrir. Alors, quand on doit choisir entre se nourrir et les lunettes, on va prendre se nourrir, ce qui est déjà un problème. Alors, imaginez pour les lunettes. Donc, en faisant ce constat-là, j'étais déjà impliqué dans un organisme communautaire qui est tombé en campagne de financement. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une pierre deux coups? Je me suis installé dans le hall d'entrée de l'organisme et j'ai décidé que j'allais vendre des lunettes à des prix raisonnables, donc en n'ayant pas de loyer à payer, en diminuant mes charges opérationnelles au maximum. Ça m'a permis de vendre des trucs à des prix beaucoup plus accessibles. Et il y avait une partie qui retournait à l'organisme communautaire. C'est exactement la même formule maintenant encore, c'est-à-dire on se promène, d'où l'appellation nomade, on se promène dans différents organismes communautaires, puis on vend les lunettes à des prix...
Vous dites raisonnable, ça veut dire quoi, raisonnable?
Bien, c'est-à-dire qu'on a fait nos prix selon la charte de remboursement de l'aide sociale. Lorsque quelqu'un est prestataire de l'aide sociale, il y a une aide gouvernementale pour aider les gens à se procurer des lunettes. On va charger 0 $ de plus que le montant qui est demandé par l'aide qui est remboursé par l'aide sociale, pardon, pour les enfants. Donc, de A jusqu'à Z, ça coûte rien pour les enfants lorsqu'ils ont accès au remboursement. Et pour les adultes, il y a toujours une option à 20 $ de plus. Et ce prix-là deviendrait donc le prix pour tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas à l'aide sociale et que l'aide sociale aurait remboursé 100 $, ben pour vos enfants, j'ai affaire à lunettes à 100 $ au même prix que ce que l'aide sociale aurait payé. Donc, en faisant les prix de cette façon-là, c'est devenu quelque chose de très intéressant pour tous les organismes communautaires qui ont vu là une façon de résoudre le problème. Et au-delà de ça, je vous dirais qu'on s'assure tout le temps qu'il n'y a personne qui va jamais repartir chez lui sans lunettes parce qu'on a été trop cher. On se considère comme un certain filet de sécurité. Donc, on prend des ententes avec les organismes communautaires, avec les personnes pour rendre ça accessible pour chacune des personnes qui passent.
Parce qu'il y avait également ce constat d'observer que, bon, notamment chez les personnes itinérantes, qui a été, j'imagine, au départ, votre première clientèle, le premier contact, bien, il y avait de gros problèmes de la vue, des gens qui avaient, différents soucis, mais sans ordonnance et surtout sans lunettes.
Ouais, les gens ont de la difficulté à s'imaginer la réalité dans ce domaine-là. Mais tout à l'heure, vous parliez des statistiques de Protégez-vous à 1 200 $ par année.
Ben oui.
Pour beaucoup de gens, des fois, 30 ou 40 $ à la fin du mois, c'est extrêmement problématique. Alors imaginez 1 200 ou la moitié, juste 600 $ c'est pas quelque chose qui est accessible. Et c'est dommage parce que ça coûte pas si cher que ça à fabriquer des lunettes quand on se débarrasse de toute une logique de commerçants avec un beau grand local sur la rue Saint-Denis ou sur la rue Sainte-Catherine, quand on évite de vendre des noms Prada, Dolce Gabbana, Giorgio Armani, tout ça. Mais quand on passe à côté de tout ça, ça reste quelque chose de très simple et qui n'est pas si dispendieux à fabriquer finalement.
Oui, parce que lorsqu'on vous demande pourquoi vos lunettes sont si peu chères, vous répondez plutôt par « ouais, faudrait demander aux autres opticiens pourquoi c'est si cher
ouais. ».
Vous relancez cette question-là.
Ben oui, disons qu'à force de répondre correctement à la question initiale, je me suis ramassé avec une amende de mon ordre professionnel et avec des sanctions disciplinaires. Donc, je ne réponds plus maintenant. Je renvoie la question de l'autre côté.
Donc, vous êtes considéré comme un marginal dans votre cercle de professionnels.
C'est assez bizarre. C'est-à-dire que de la même façon que je suis considéré comme un marginal, les marginales attirent à eux d'autres marginaux, faut croire. Et j'ai plusieurs collègues opticiens qui travaillent avec moi. Contrairement à tous les autres bureaux d'optique, j'ai pas besoin de courir après les opticiens. C'est eux qui m'appellent pour me dire qu'ils veulent travailler pour moi. J'en ai rencontré encore deux la semaine dernière. Donc oui, je suis marginal, mais on attire les médias, comme je suis là aujourd'hui pour le prouver, et d'autres médias aussi qui sont venus me voir. On attire les opticiens, j'attire aussi d'autres
professionnels de la santé.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure avant qu'on commence, mais il y a un projet qu'on est en train de monter, une clinique pluridisciplinaire qui s'appellera éventuellement les Portes Oranges. Je vous en reparlerai quand ce sera le temps.
Vous allez revenir.
Oui, et on va avoir avec nous des ostéopathes, des massothérapeutes, des acupuncteurs, des optométristes qui, attirés par la façon qu'on a de travailler, veulent eux aussi rendre les services de santé accessibles. Grosso modo, on dirait qu'ils sont écœurés de travailler juste pour des riches.
Oui, oui. Tout ça, vous disiez, j'attire les autres professionnels, peut-être parce que tout ça donne un sens, tout ça a un impact réel. Je reviens un petit peu à cette pratique-là d'opticien nomade. On fait comment, surtout au départ, Philippe Rochette, vous aviez peut-être plus ou moins d'expérience avec cette clientèle qui est unique, qui a des besoins particuliers. On parle comment de la santé de la vue à une personne itinérante qui n'a peut-être pas eu de lunettes depuis des années?
Bien, la personne qui n'a pas eu de lunettes depuis plusieurs années... Il sait qu'il ne voit pas.
Oui,
en commençant, il est au courant qu'il y a un problème.
Et que ça diminue peut-être d'année
Après
en année.
Après ça, la première rencontre, je vais lui expliquer comment on procède. Exemple, s'il est prestataire de l'aide sociale, il va avoir un formulaire à se procurer. Il va falloir qu'il fasse faire un examen de la vue. Je vais lui donner les références, les bons numéros de téléphone. Et on va se donner un rendez-vous la semaine prochaine. Parce que je lui dis, viens me revoir avec ta paperasse. Et à partir de là, lorsque je vois la prescription, je sais un peu qu'est-ce qu'il y a de besoin plus concrètement et je l'enligne pour essayer de lui trouver la façon la moins chère possible pour lui d'être corrigé convenablement.
Mm-hmm. Mm-hmm. Il fait comment pour avoir, lui ou vos autres clients, bien sûr, cette fameuse ordonnance, il faut passer par un optométriste.
Ouais, et les optométristes m'aiment pas beaucoup d'ailleurs parce que les gens vont dans leur bureau, dans leur commerce et ne font que l'examen. Mais bon...
Ah, oui. Mm-hmm.
Les optométristes sont tenus par leur code de déontologie de remettre
cette
systématiquement
ordonnance, oui.
L'ordonnance à la personne qui fait l'examen de la vue. D'ailleurs, la personne a payé pour ce service-là lorsqu'il fait l'examen de la vue. Et la personne ensuite vient me voir avec la prescription. Et nous, on travaille à partir de là. L'opticien, c'est un peu comme le pharmacien, si je peux me permettre une analogie un peu facile. C'est ça. Donc, on vient me voir avec la prescription.
Mais d'ailleurs, je reviens à cet article, pardon, publié dans le Protégez-vous en 2014, qui disait que les clients avaient intérêt à magasiner et à peut-être pas acheter tous leurs services au même endroit. Donc, ça revient exactement à ce que vous disiez. Et je me dis, quand je faisais la recherche pour cette émission, de plus en plus, les gens achètent leurs lunettes sur le web. Donc, il y a vraiment... On a mis au surligneur le fait que peut-être ces produits-là sont trop chers. Et qu'on peut en trouver à moindre prix.
Ben oui. Donc, je ne peux pas vous contredire là-dessus.
Ben voilà. Puis vous êtes peut-être
moi, je suis quelque part entre le web puis le commerçant. Je ne peux pas faire des lunettes à 25 $ parce que ça, j'arriverai pas. Là. Mm-hmm. On peut par contre se procurer des lunettes à 25 ou à 30 $ sur le web, c'est possible, en les faisant venir du Pakistan ou du Bangladesh ou de je ne sais pas trop où. Là. C'est faisable. Moi, je suis quelque part entre les deux, mais avec toujours la conscience de rendre ça accessible pour les gens. C'est-à-dire, si je dois baisser mes prix pour que ça soit accessible à la personne, je vais le faire. Mm-hmm.
Donc, voilà. À quelque part, entre les deux, Philippe, parce que vous avez ce contact-là qui est unique avec la personne qui vient vous rencontrer, j'avais lu quelque part qu'il y a une maman qui est une fidèle cliente, qui a des enfants, du moins un. Et avec les enfants, ce qui est particulier, c'est que l'ordonnance varie. Je veux dire, une lunette, premièrement, elle peut se briser facilement au jeu de ballon chasseur. Là. Mais après ça, la vue change lorsque l'on grandit. Il vous dit quoi, ces parents-là, peut-être un peu moins fortunés, qui ont des enfants, qui ont besoin de voir, ne serait-ce que pour leur autonomie et la vie scolaire?
Bien, c'est clair. Ça fait des dépenses très, très importantes pour les familles parce que les gens budgètent leurs affaires puis tout d'un coup, un ballon arrive sur le côté puis c'est 300$ qui s'en va. Mm-hmm. Alors, oui, je suis d'un grand secours pour ces personnes-là et malheureusement, je vais faire attention pour ne pas me ramasser avec une autre amende, mais dans les commerces conventionnels, on a souvent tendance à essayer de mettre tout le paquet, de mettre toute la gomme sur une vente. Donc, pour un enfant, exemple, qui a une hypermétropie de plus 3 dioptries, ben on va avoir tendance à lui vendre un verre super aminci avec les anti-reflets top patente et compagnie et une monture qui va briser rapidement ou la prescription va changer dans 3 mois parce qu'il y a un suivi à faire avec un examen de la vue avec un ophtalmologiste. Nous, on a une autre approche. On a vraiment une autre approche. On est beaucoup plus pratico-pratique. On ne fait aucun compromis sur la qualité du produit qu'on fait. Tout est toujours très bien fait et vérifié et on s'assure que tout est fait dans les normes. Mais on a toujours on veut toujours donner le service comme on aimerait se le faire donner si on était nous assis de l'autre côté, en se faisant expliquer les vraies choses et en n'ayant pas comme seule motivation de faire un maximum de profit à court terme. Mm-hmm. Et j'ai commencé comme ça, tout seul, et maintenant, on est rendu avec 12 employés. Donc, la formule, elle fonctionne. Les gens sont contents de se faire traiter de cette façon-là. Ils reviennent, ils en parlent à leurs amis. Et nous, on continue de redonner de l'argent dans les organismes communautaires.
Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé encore, mais vous redonnez aux organismes là, sur le prix, le coût des lunettes. Là,
bien, c'est-à-dire, comme j'ai un budget de publicité de 0$ depuis le jour 1 de l'entreprise, toute ma publicité s'est faite à l'intérieur du réseau communautaire. Ce qui, d'un côté, me force, je dis ça à la blague, là, mais qui me condamne à bien travailler parce que tout le monde connaît tout le monde dans le communautaire. Alors, si je me mets à travailler en cabochon, je vais me brûler en 15 minutes. Donc, on travaille très bien avec les différents intervenants, les différents centres qui, eux, nous réfèrent leur clientèle. Et comme ils nous hébergent dans leurs locaux, un peu partout où est-ce qu'on se promène, ben nous, c'est une façon d'être conséquent, d'être reconnaissant en redonnant une partie de ce qu'on fait comme chef d'affaires aussi aux organismes communautaires comme outil de financement pour qu'ils puissent continuer leurs activités respectives.
Mm-hmm. Important aussi de dire que, encore là, dans cette inclusion que vous souhaitez, Philippe Rochette, tout le monde peut venir vous voir. C'est-à-dire, vous ne regardez pas les revenus. Donc, peut-être vous avez des clients millionnaires qui viennent parce qu'ils ont envie de mettre leur argent ailleurs. Là.
Effectivement. Et j'ai des clients millionnaires.
Quelle honnêteté!
Oui, ils sont contraires. C'est peut-être comme ça qu'ils sont devenus millionnaires. C'est à force de trouver les deals puis les bargains. Mais oui, il y a effectivement des gens qui trippent sur la mission de l'entreprise. Ils savent qu'il n'y a pas de compromis au niveau du service, au niveau de la qualité des produits qui sont rendus. Donc, pourquoi eux paieraient 400$ ou 500$ de plus dans un commerce alors qu'ils peuvent se procurer un équivalent pour beaucoup moins cher. Alors, c'est devenu un peu comme ça, c'est-à-dire que le bouche-à-oreille a fait son travail et là, c'est devenu beaucoup de monsieur, madame, tout le monde et beaucoup aussi de la classe moyenne parce que la classe moyenne veut ouais. pas, ça demeure un peu la vache à lait du système. Ils se font étrangler en frais, en dettes, en impôts et en tout ce qu'on veut. Là, je veux dire, l'état financier de la classe moyenne, le pouvoir d'achat diminue extrêmement.
Et l'endettement augmente.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Alors, c'est devenu un service pour tout le monde. J'avais un professeur du HEC la semaine passée qui venait me voir parce qu'il tripait sur la mission et mm-hmm. sur le modèle d'entreprise que j'avais.
Mais c'est une façon aussi d'attirer des gens plus fortunés vers des causes communautaires et peut-être de s'intéresser à des organismes qui sont dans l'ombre, qui ont des missions bien particulières pour aider les gens plus démunis. Et si cet argent-là peut basculer comme ça et circuler, ça a juste du positif. Hein?
Mmh. Ils sont contents. Ils sont contents de savoir qu'il y a une partie de ce qu'ils investissent chez moi qui retourne dans le communautaire aussi.
Vous disiez 12 employés, un homologue à Québec aussi, à quelque ouais. part. Vous inspirez des gens partout en province.
Ben lui, j'ai fait plus que de l'inspirer. C'est mon premier employé.
Ah oui?
Oui, il a travaillé pour moi. Je lui ai montré comment faire. Puis, il est parti à Québec pour aller faire son truc là-bas.
Simon Dufour, c'est
Simon
ça?
Simon Dufour, oui.
Donc, peut-être aussi, on pourra aiguiller les gens parce que, bon, CanalM est diffusé partout au Québec. Donc, pour les gens qui sont plus dans cette région-là, qui voudraient aussi avoir accès à des soins de la vue ou des produits de lunettes et tout plus accessibles. J'ai examen de la vue parce que tout à l'heure, on parlait de l'accessibilité à une ordonnance. Maintenant, vous offrez aussi les examens de la vue, Philippe.
Oui, ça va commencer, effectivement. Ça va être sous le portail des portes oranges qu'on va lancer très prochainement. Mais effectivement, on offre aussi les examens de la vue, c'est une optométriste, Gabrielle Lapointe, qui va commencer chez nous bientôt et qui va faire des examens de la vue à coût aussi plus bas que ce qu'on retrouve sur le marché, toujours avec cette même philosophie-là de rendre ça accessible.
Est-ce que c'est une façon aussi d'amoindrir la complexité du processus? Je reviens à cette clientèle de personnes itinérantes pour qui ça peut être un obstacle là, d'aller chez un optométriste, avoir une ordonnance et revenir.
Oui, sauf que on a 27 points de service. On en a à Sainte-Adèle, à Granby, à Valleyfield, à Mascouche. Ils ne vont pas se déplacer à Montréal pour venir faire un examen de la vue. Ils vont aller au New Look, au Gresham-Scaff, au Farah ou au Iris, au coin de la rue, chez eux. Ils vont faire leur examen de la vue là-bas. Puis bon, c'est pas si compliqué, mm-hmm. faire l'examen de la vue et sortir avec la prescription. Il y a plein de gens qui le font sans problème. Là.
Pas compliqué, mais ça a des frais.
Non, c'est le même frais. C'est que le frais de l'examen de la vue. Ils n'ont pas le droit de charger un extra si tu n'achètes pas tes lunettes là-bas. Là.
Mm-hmm, mm-hmm, oui. Maintenant, en terminant, parce que le temps a filé à toute allure, on fait comment pour avoir accès? Il y a un calendrier, je pense, sur le site. Et on peut voir dans tous ces points-là où vous êtes et à quel moment.
Oui, on a ce qu'on appelle une run de lait. Et on se promène, une run de lunettes. Donc, on se promène lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans tout plein d'endroits différents, à des heures différentes. L'horaire est accessible sur le site web, le site au www.bonhommealunettes.org. Et les gens, ou ils peuvent nous appeler aussi. Il y a un numéro de téléphone, je peux le donner si vous
Bien
voulez.
Bien sûr.
514-303-4315. Et on peut répondre à vos questions en ligne ou au téléphone. Et les gens doivent se présenter avec leur prescription dans un des 28 endroits.
C'est tout ce dont ils ont besoin, pas besoin d'amener une preuve pour les prestations de l'aide sociale, par exemple.
Si la personne est prestataire de l'aide sociale, il va y avoir une démarche à faire qu'on explique assez bien sur le site aussi. Il y a un formulaire que la personne peut faire venir. Maintenant, s'il ne l'a pas la première fois qu'il vient nous rencontrer, c'est pas grave. Il fera la démarche ensuite et au moment où il vient récupérer ses lunettes la semaine suivante, il apportera le formulaire à ce moment-là.
Pas plus compliqué que ça.
Non.
On mettra bien sûr, Philippe, votre site web, le numéro de téléphone également pour vous joindre. Ensemble, nous verrons. C'est votre petite signature.
C'est la dernière phrase de mon manifeste.
Alors, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, Philippe Rochette.
Merci à vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Carl Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre de recherche du CHUM, également professeur à l'Université de Montréal, et là pour nous parler d'une recherche, d'un rapport de recherche assez prometteur qui pourrait être un chaînon manquant dans la compréhension de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer dont on parle énormément en ce moment, beaucoup de recherches, et ça, ben, ça a quelque chose d'extrêmement positif. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, pour les gens qui vivent avec la maladie, pour les gens qui les accompagnent, les proches également. Une maladie dont on parle depuis à peu près 100 ans, mais on avait peu de pistes. Et là, cette recherche qui a démontré qu'il y a peut-être plus de grains dans le cerveau des gens atteints de la maladie, ben, ça pourrait donner de bonnes avancées.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les cerveaux des gens atteints lors de cette recherche, Carl Fernandez?
Oui, alors, au départ, ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, les cellules souches du cerveau sont-elles inhibées? Alors, normalement, ce sont des cellules qui vont essayer de réparer les dommages qui se passent au cerveau. Mais dans la maladie d'Alzheimer, elles ne jouent pas le rôle normal.
Mm-hmm.
Donc, mon étudiant au doctorat, Laura Hamilton, avait étudié les cerveaux des patients décédés de la maladie d'Alzheimer et aussi un modèle souris de cette maladie. Et ce qu'elle avait découvert, c'est au centre du cerveau, dans la région ventriculaire, c'est là où on trouve normalement les cellules souches, elle a trouvé qu'il y a des dépôts de gras. Alors, ça, c'était intéressant parce que, en fait, la première description de dépôts de gras dans le cerveau était faite par Dr. Alzheimer lui-même.
Ouais, je pense en 1906, quelque chose comme ça. Là.
Oui, exactement. Mais cette observation était vraiment laissée à côté et c'était pas investigué parce que la biochimie des gras, c'est très difficile. Il n'y avait pas les méthodes développées à ce temps-là. Alors, on avait comme redécouvert cette observation.
Et est-ce que ce dépôt de gras-là empêche la cellule de se ressourcer, de se recréer? Est-ce que c'est ça qui crée le problème et le développement de la maladie?
Oui, alors c'est ça ce qu'on avait essayé de tester. C'est est-ce que ces dépôts de gras, est-ce qu'ils jouent un rôle dans l'inhibition des cellules souches?
Mm-hmm.
Alors, ce qu'on avait fait, c'est on a utilisé des drogues qui sont normalement utilisées pour le traitement de obésité, parce que ça, c'est aussi une autre maladie où il y a un problème métabolique dans le corps. Mais ces drogues n'ont jamais été testées dans le cerveau parce qu'il n'y avait pas de raison pour voir ça.
Mm-hmm.
Et ce qu'on avait vu, c'est que dans notre modèle animal, l'utilisation de ces drogues a empêché l'accumulation de ces acides gras qu'on avait découvertes. Et comme conséquence, on ne sait pas toutes les conséquences encore, mais une des conséquences, c'était qu'il y avait une réactivation des cellules souches dans le cerveau.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est intéressant parce que les cellules souches ils jouent un rôle normalement dans la mémoire, dans l'apprentissage et dans la réparation du cerveau. Mm-hmm. Alors ça, c'est promettant.
Est-ce que l'on sait, Carl Fernandez, pourquoi certains cerveaux développent plus de gouttelettes de gras ou plus d'accumulation de gras dans leur cerveau?
Non, ça c'est une des questions qu'on commence à travailler maintenant. Alors en fait, avec le vieillissement normal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une légère accumulation de ces gouttelettes lipidiques. Mais ça a l'air que dans la maladie d'Alzheimer, ça s'est beaucoup augmenté, mais aussi beaucoup accéléré. Alors, quand on fait la conversion d'âge avec notre modèle animal, avec les humains, ce qu'on voit, c'est que ces gouttelettes lipidiques commencent à accumuler vers l'âge de 20 à 25 ans chez l'humain.
Wow.
Oui, alors ça, c'est intéressant parce que ça nous donne quelque chose qui se passe très tôt dans la maladie.
Mm-hmm.
Donc, si on peut empêcher ça, on peut peut-être avoir un grand effet sur la progression de la maladie.
La progression et la prévention également.
Oui.
Maintenant, bon, la suite, vous nous l'avez un petit peu mentionné. Est-ce que cette découverte pourrait aussi amener à l'élaboration de médicaments plus curatifs? Parce qu'on le sait, en ce moment, bon, il y a des millions de gens qui sont touchés par cette maladie-là et il n'y a pas de traitement curatif. On amoindrit un petit peu le développement de la maladie, mais c'est tout.
Oui, exactement. Alors ça c'est notre espoir. Alors, il y a beaucoup de travail à faire encore pour vraiment comprendre l'origine de l'accumulation de ces gouttelettes lipidiques.
Mm-hmm.
Et il faut vraiment montrer dans nos modèles que quand on empêche l'accumulation de ces gouttelettes lipidiques, qu'il y a un effet sur les troubles cognitifs. Alors, ça, c'est un des aspects qu'on va tester maintenant. Un autre, c'est de vraiment essayer de développer des drogues qui peuvent avoir un effet dans le cerveau, parce que les drogues qu'on a présentement pour empêcher l'accumulation des lipides, ils ne se rendent pas au cerveau. Et une autre piste qu'on a, c'est d'essayer de voir avec des spécialistes de l'imagerie du cerveau, est-ce que ce serait possible de voir les gouttelettes lipidiques dans des patients vivantes, parce que nos essais sur des patients, c'était sur des cerveaux des patients décédés.
Oui, tout ça en lien avec la banque de cerveaux de l'Institut Douglas. Là. Vous avez collaboré avec eux.
En fait, c'était un institut à Québec.
Oui,
c'était l'Institut de gériatrie à Québec.
Ah, d'accord. Merci de rectifier le tir. Oui, bien, ça pourrait être assez formidable, en effet, dans l'impact de la maladie qui, je le rappelle, touche des millions de personnes. C'était totalement fascinant de vous parler aujourd'hui, Carl Fernandez. Je rappelle, vous êtes chercheur au Centre de recherche du CHUM, également professeur à l'Université de Montréal. On suivra de près ces prochaines recherches sur la maladie d'Alzheimer et l'accumulation de grains dans notre cerveau qui pourrait être une cause.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci beaucoup d'avoir été là. Christiane Campagnan également à la recherche. Et puis, nous, on se donne rendez-vous toute la semaine encore. On sera là à 14h, donc dès demain, mardi. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.